Bonjour et merci de nous être fidèles tous les dimanches. L'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info jusqu'à 13h. Il s'est imposé en quelques mois comme une figure incontournable à gauche, mais incontournable au milieu d'un paysage dévasté, celui qu'occupaient les socialistes il y a pas si longtemps. Même ses adversaires lui reconnaissent cette qualité de ne jamais baisser les armes. Mais quelle bataille mène-t-il au juste? Et comment s'opposer à Emmanuel Macron, son ancien camarade de promo à l'ENA, le porte-parole du Parti Socialiste, député de la 3e circonscription des Landes, Boris Vallaud s'est installé au micro et devant les caméras de questions politiques pour intervenir à l'application France Inter. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser ou les réseaux sociaux. Le mot-clé, question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Et bienvenue à mes côtés pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour
Ravie
à tous.
Ravi de vous retrouver après l'émission politique avec Nicolas Hulot. Remise?
Tout à fait, on a survécu.
Et un grand succès. Virginie Malingre du journal Le Monde. Bonjour Virginie.
Bonjour Ali.
Ravie de vous retrouver. Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Bonjour à tous.
Karine qui fera votre portrait Boris Vallaud dans quelques minutes. Mais d'abord, un mot pour revenir sur la mobilisation des Gilets jaunes. Hier, c'était très frappant. On a vu toutes les oppositions, absolument toutes les oppositions à Emmanuel Macron essayer de comprendre ou de récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Toutes les oppositions, sauf les socialistes, sauf vous. Vous avez oublié les règles de base de la politique ou vous n'avez rien à dire aux Gilets jaunes?
Mais, ou alors peut-être avez-vous pour partie oublié les règles du journalisme, c'est-à-dire écouter tout ce qui se dit. Depuis des semaines, nous avons alerté sur la question.
C'est ce que j'ai fait. J'ai absolument écouté tout le monde.
Du pouvoir d'achat.
Et on a écouté, par exemple, Olivier Faure, qui avait un discours un peu flou, mais en tout cas pas du tout aussi engagé que l'autre.
D'abord, commencez par dire que les violences qui se sont manifestées hier sur les Champs-Élysées, comme un certain nombre d'épisodes, toute cette semaine, évidemment, on les condamne avec fermeté. Mais on ne peut pas réduire le mouvement des Gilets jaunes à cela. Il y a une souffrance dans le pays, il y a une exaspération, il y a un ras-le-bol. Et on ne peut pas réduire ce ras-le-bol aux Gilets jaunes. Et ça, nous le disons depuis des semaines, à travers nos propositions, à travers nos combats, pour une écologie qui se préoccupe de justice sociale, pour une justice sociale qui n'oublie pas que la question écologique abandonne beaucoup de gens à la précarité énergétique, par exemple. Voilà le message qui est le nôtre.
Est-ce que malgré tout, vous avez le sentiment que le mouvement est en train de déraper, peut-être de dégénérer, d'échapper aux Gilets jaunes, finalement?
À certains égards, oui, bien sûr. On l'a vu sur les Champs-Élysées. Moi, les Gilets jaunes que j'ai rencontrés, c'est ceux qui étaient sur les ronds-points dans les Landes, autour de Mont-de-Marsan, de Tartas, de Dax.
Dans ma circonscription.
Dans ma circonscription. Et j'y ai vu des Landaises et des Landais, souvent des jeunes actifs, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui voient bien que leur pouvoir d'achat est attaqué de toutes parts et qui ont un sentiment d'injustice considérable, considérable. Ils ont le sentiment qu'ils ont face à eux un gouvernement qui ne les écoute pas.
Et ils ont le sentiment aussi de ne pas être représentés, politiquement.
Et vous avez raison de dire qu'à travers la question des Gilets jaunes, au fond, c'est une interpellation à toute la classe politique, à tous les corps intermédiaires qui est faite. Voilà.
Mais moi, ma question, c'était
pas un corps intermédiaire.
Les partis politiques, si, bien sûr.
Comme élu de la République, vous n'êtes pas un corps intermédiaire. Vous êtes l'émanation du suffrage universel.
Bien sûr, mais précisément, se reconnaissent-ils
Mais
dans
vos gilets jaunes des Landes, ils condamnent, selon vous, ou pas ce qui s'est passé à Paris, ou finalement ils se disent, c'est aussi une manière de se faire entendre parce que c'est nécessaire.
Donc, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça leur faisait du tort, qu'ils ne partageaient pas cette expression, cette violence. Et d'ailleurs, dans les Landes, il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension de la part de ceux qui étaient en gilets jaunes et de la part de ceux qui n'étaient pas en gilets
jaunes.
Est-ce que vous trouvez que des leaders comme Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ou alors Marine Le Pen ont été irresponsables en disant allons chercher Macron et en incitant en gros les gilets jaunes à se révolter, à se rebeller et à éventuellement marcher sur l'Élysée? Est-ce que vous trouvez que pour le coup,
écoutez-moi, c'est pas la façon de faire de la politique. Ma façon de faire de la politique. Ma façon de faire de la politique, elle est responsable. Elle est d'abord d'être à l'écoute de ceux qui ont le sentiment que plus personne les écoute, qui ont le sentiment qu'ils sont les grands oubliés, qu'ils payent des impôts plus que d'autres, et que finalement qu'ils finissent par payer des impôts à la place de ceux qui n'en payent pas. Je pense en particulier aux multinationales, on aura l'occasion.
Mais
justement, comme il y a eu deux, on a dit
revenir.
Qu'il y avait de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui agitaient.
Il y avait de tout. Je vais vous dire, dans cette manifestation, il y avait de tout. Il y avait
des gens, ça veut dire
il y avait des gens qui étaient politisés, il y avait des gens qui n'étaient pas politisés, il y avait des militants du Parti Socialiste, il y avait des gens qui n'avaient jamais manifesté, il y avait tout ça, il y avait cette colère. Et au fond, moi je préfère dans le cadre des lois de la République, sans trouble à l'ordre public. Ben, je préfère des gens qui parlent plutôt que des gens qui se résignent et qui se taisent.
Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité dans votre incapacité à proposer à ces gilets jaunes et aux autres une opposition un peu construite, un peu solide ?
Bien sûr.
Boris Vallaud.
Bien sûr. L'interpellation qui nous est faite, elle est collective. On voit bien que nous sommes dans un système de partis qui est sans doute, à bien des égards, à bout de souffle. On voit bien que les corps intermédiaires peinent à être des porte-voix. On voit bien comment les classes moyennes, depuis longtemps maintenant, ont le sentiment que leur avenir n'est plus assuré en dépit de leur travail, en dépit de leurs études. Eh bien, ça, c'est aussi à nous que ça s'adresse. Et dans notre opposition, depuis des mois, on a deux matrices. La lutte contre les inégalités pour la justice et puis la lutte contre le réchauffement climatique. Et les deux sujets ne sont pas pour nous distincts.
On va y venir justement, concilier les fins de mois et la fin du monde. C'était l'une des formules de Nicolas Hulot justement jeudi soir sur le plateau de France 2. On va évidemment y revenir avec vous, Boris Vallaud, comment résoudre cette équation qui peut paraître impossible. Mais d'abord, votre portrait, il est signé Karine Bécard.
Boris Vallaud, vous êtes donc devenu député pour la première fois il y a maintenant presque 18 mois. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille vous classer parmi les novices de la politique, je m'explique. Depuis 10 ans déjà, vous exercez dans les coulisses et vous avez été plutôt actif, notamment sous le précédent quinquennat. D'abord, aux côtés d'Arnaud Montebourg, quand il était le ministre du redressement productif. Vous, Boris Vallaud, vous étiez à Bercy, comme on dit, son directeur de cabinet. Après avoir passé chez lui en Saône-et-Loire, 4 ans à diriger les services de son département. Ce qui ne vous a pas empêché, assez mystérieusement, de glisser du frondeur Montebourg au président Hollande, puisque vous avez accepté d'être nommé ensuite secrétaire général adjoint, c'est-à-dire numéro 3 de l'Élysée. Sans doute le sens des responsabilités. Aujourd'hui, Boris Vallaud, vous vous battez directement dans l'hémicycle avec un ton souvent sarcastique, comme ce 13 juin 2018. Séance publique, il est question du compte personnel de formation calculé en heures jusqu'à présent, transformé en euros avec le nouveau gouvernement.
Une heure faisait 60 minutes il y a 5 ans, que vraisemblablement une heure fera 60 minutes dans 5 ans aussi, et que c'était au fond la meilleure des indexations que l'on puisse imaginer, ce qui met en cause la question de la monétisation.
Alors, incontestablement, vous êtes très à l'aise dans la bataille politique et pourtant, Boris Vallaud, vous avez hésité à devenir député. Henri Emmanuelli, cette incontournable figure du Parti Socialiste qui a tout de suite vu en vous son héritier, a mis deux bonnes années à vous convaincre d'y aller. Il vous avait repéré à la préfecture des Landes, vous, le jeune énarque de la même promotion, cela a été dit, que celle d'Emmanuel Macron, et cet authentique mitterrandiste vous a donc offert sa circonscription.
Le Parti Socialiste tel qu'il est aujourd'hui, c'est un moment de l'histoire d'une grande famille politique qui nous a précédés et qui nous survivra.
Alors là, nous sommes en novembre 1992. Henri Emmanuelli est l'invité de cette grande émission, l'heure de vérité. Et déjà à l'époque, le Parti Socialiste donne l'impression d'être sur le point de vaciller. C'est vrai qu'aux élections législatives de 1993, le PS enregistre l'une de ses plus sévères déculottées, puisqu'il ne lui reste plus que 57 députés, sauf que c'est pire aujourd'hui, vous êtes 29 à l'Assemblée. Alors, vous faut-il en profiter, Boris Vallaud, à 43 ans, pour vous dépêcher de vous imposer chef de groupe ou chef de parti ? Manifestement, ce n'est pas ce que vous avez choisi. Cela dit, chercher à compter ou à exister dans un parti qui peut encore à tout moment sombrer apparaîtrait, à n'en pas douter, sacrément décalé.
Boris Vallaud, réaction ?
Tout est vrai. C'est déjà beaucoup. Non, que vous dire.
Vous n'aimez pas les portraits.
Non, pas du tout.
J'ai lu 100 fois que...
J'aime pas tellement ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, c'était pas une évidence de me présenter aux élections législatives. J'aimais bien ma vie professionnelle. J'étais membre du corps préfectoral dans les territoires. On déménage tous les deux ans. Et c'est à chaque fois un nouveau défi qui s'offre à nous. On prend la mesure de ce qu'on fait, en bien comme en mal. Et puis, en effet, il y a eu le sentiment aussi de devoir prendre ses responsabilités, que c'était pas le moment de se planquer, que... l'histoire était dure pour la gauche française et européenne, que le moment était dur pour les démocrates, pour les républicains, que la question du racisme n'était pas une chose désincarnée pour moi. Et ben voilà, j'y suis allé en disant, prenons modestement une part.
On entendait Henri Emmanuelli dire le PS nous a précédé, il nous survivra. Est-ce que vous pourriez prononcer cette phrase aujourd'hui ?
Je le crois.
Oui ?
Je le crois.
Il vous survivra.
Je dirais plus largement que le socialisme... nous précède et que le socialisme reste un horizon, un avenir, qui est un avenir exigeant. Voilà, exigeant pour nous-mêmes d'abord, hein, dans les réponses politiques que l'on construit et dans les propositions que l'on fait.
Vous avez vu pourtant cette étude accablante que publiait la Fondation Jean Jaurès il y a quelques semaines, une étude sur le PS. Un tiers des Français se sentent proches des idées social-démocrates, mais le PS tourne autour de 5% des intentions de vote aujourd'hui. Le sympathisant socialiste, c'est une espèce en voie d'extinction. Comment éviter la disparition de ceux qui formaient avant le gros des troupes du Parti Socialiste ?
Vous savez, je ne crois pas qu'un certain nombre de valeurs soient disqualifiées par une élection. C'est ce que disait, au fond, Henri Emmanuelli. La question de la justice, la question de l'égalité, la question de la fraternité, tout ça, ce sont des combats qui ne perdent pas de leur actualité. Mais ce sont des valeurs, qui n'ont plus rien d'une évidence. En réalité, à bien des égards, les idées du socialisme, les idées de la gauche sont devenues minoritaires. Parler d'égalité, on vous renvoie l'égalitarisme au visage. Et on met dos à dos le mérite et l'égalité, alors que l'un... Et la condition de l'autre. Parler de solidarité, on vous renvoie l'assistanat. Et puis, y compris sur d'autres sujets, le grand remplacement, ça a maintenant bien largement dépassé les frontières de la seule extrême droite. Donc on en est là. Eh bien, avec humilité, avec détermination, on doit reprendre ce chemin. Et puis surtout, et j'emprunte, si vous m'autorisez ces mots à Camus, il faut savoir pour qui on se bat. Et il disait, on ne peut pas être du côté de ceux qui... écrivent l'histoire, on ne peut être que du côté de ceux qui la subissent. Et ben voilà, aujourd'hui, dans le moment, on le voit avec les gilets jaunes, on le voit avec l'exaspération dans le pays, on le voit avec les inégalités qui explosent et qui deviennent insoutenables. Le monde devient invivable à cause de cela. Et bien voilà nos combats prioritaires.
Mais c'est ce que voulait aussi Emmanuel Macron, le candidat Macron, qui parlait d'égalité des chances et qui avait à cœur de parler d'égalité réelle. C'est un discours qui n'est pas si éloigné de ce que vous dites, Boris Vallaud.
Pardon, je croyais qu'il y avait...
Allez-y,
écoutez, vous savez, moi, je n'ai jamais cru au discours d'Emmanuel Macron. Si j'avais été convaincu par son discours, peut-être serais-je allé rejoindre ses rangs. Mais c'est un libéral. C'est un libéral qui a cette conviction qu'il y a des destins de gagnants et des destins de perdants, et qu'on peut abandonner...
Et ça, vous l'avez senti dès lors qu'il était... Nathalie. Même à l'Élysée, vous l'avez tout petit,
je l'ai
à l'ENA,
où
vous avez senti qu'il y avait chez lui quelque chose de...
dans un certain nombre de ses prises de position. Je l'ai senti dans sa campagne présidentielle. Et derrière les mots, il y a quand même l'idée que chacun doit se démerder tout seul. Voilà.
Le plan pauvreté, le plan santé, le dédoublement des classes de CP, tout ça, c'est des mesures qui ne vous semblent pas équilibrer un tout petit peu ce que votre jugement...
Tout est dans le un tout petit peu. Non, mais vous avez raison, 25 milliards pour le plan richesse, 8 milliards pour le plan pauvreté.
13 pour le plan pauvreté.
8 milliards pour le plan pauvreté, c'est ce qui est annoncé. Et je regarde ce qu'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale et les économies qui vont être réalisées sur la désindexation. En 2020, ce sera 6,9 milliards d'économies. Qui touche les allocations, les APL ? Bien finalement, on a le sentiment que les pauvres se payent leur plan pauvreté. Donc de temps en temps, le gouvernement semble faire, et bien souvent, il fait semblant. Et c'est là la limite de l'exercice. Parce qu'en effet, dans le plan pauvreté, il y avait tous les mots, il y a des choses intéressantes.
Dans la manière d'aborder les choses.
Mais il n'y a pas les moyens.
Mais aujourd'hui...
Le dédoublement des classes, j'y suis très favorable. Mais je ne suis pas pour qu'on supprime le dispositif plus de mètres que de classe qui prenait en compte la nécessité de faire des petits groupes, parce que 75% de la pauvreté infantile, elle est en dehors des zones d'éducation prioritaire. Pour vous donner des exemples, je suis pour le plan hôpital. J'étais avec les syndicats de l'hôpital de Dax vendredi matin, qui travaillent dans des conditions héroïques, qui ne peuvent pas revendiquer quoi que ce soit, parce que sinon, ils laissent tomber leurs patients. Eh bien, on dit qu'il va y avoir une rallonge budgétaire. Mais cette rallonge budgétaire, elle ne compense pas les économies qui ont été demandées.
Mais la nécessité de désendetter et de réduire le déficit que François Hollande avait également, vous ne pensez pas que c'est une ardente obligation, que ça peut expliquer la ligne de crête sur laquelle...
Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on peut durablement vivre au-dessus de ses moyens. Et d'ailleurs, si vous avez regardé ce que nous avons pu faire, notamment avec Arnaud Montebourg en Saône-et-Loire, eh bien, nous avons eu des efforts d'économie à faire. Et pour ensuite faire des choix politiques. Ça veut dire s'occuper d'abord de ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui est condamnable dans les choix du gouvernement, c'est l'ordre des priorités. La suppression de l'ISF, la flat tax pour les plus riches, pour ceux qui n'en ont pas besoin, c'est tout de suite. Et puis pour les autres, c'est plus tard. Et c'est pas à proportion des efforts qui sont consentis aux plus riches. Mais c'est quoi la situation mondiale qui rend intolérable les choses ? C'est que depuis le début des années 80, eh bien, les 10% les plus riches ont capté 27% de la croissance mondiale. Là où les 50% les plus pauvres n'ont capté que 12%. Eh bien ça, c'est insupportable. Est-ce que c'était une bonne idée, au moment où nous sommes, de transformer le CICE en baisse de charges ? Là, maintenant, 20 milliards qui auraient été mieux utilisés à d'autres choses. Ce que il est éminemment critiquable, c'est l'ordre des priorités.
L'ordre des priorités.
Qui fait de la politique pour quelques-uns.
Mais il y a un espace politique, et on le sent, entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et vous n'arrivez pas à l'occuper, Boris Vallaud. Comment expliquer ça ?
Eh bien, nous l'occupons progressivement. Moi, j'ai jamais pensé que les choses se feraient du jour au lendemain.
Il y a quand même de moins en moins de personnalités au PS, dans les connus. Vous avez eu beaucoup de départs, certains
oui,
récemment.
Il y a
de moins en moins de militants.
Il y a aussi beaucoup de gens qui restent. Il y a encore des militants. Et je les remercie.
Combien?
37 000, c'est ça?
Je pense que c'est plus que ça, bien plus que cela.
Pardon? Bien plus que cela, de cœur.
Oui, parce que je crois
Mais sans doute, il y a des gens...
Je veux dire, ils n'ont pas encarté.
Vous savez, moi, j'ai fait mes réunions publiques de compte-rendu de mandat, parce que la reddition des comptes, c'est une chose importante quand on fait de la politique. Rendre compte de ce qu'on fait, expliquer ses choix, pourquoi on a soutenu telle mesure et pas telle autre. Eh bien, il y avait beaucoup de monde dans mes réunions publiques. Un dimanche matin, au milieu de la Chalosse, j'avais 220 personnes. Voilà. Et des gens qui sont venus me voir à la fin, qui m'ont dit « nous, on ne votait plus ». On va se mettre à revoter. Je me suis juste assuré que c'était pour moi. Comme ils m'ont confirmé, je leur ai dit, allez-y, franchement. Mais bien sûr qu'on est dans ce moment-là, que la construction, elle est compliquée. Regardez la situation de tous les sociodémocrates en Europe. Nous, on regarde aussi ce qui se passe au Portugal et en Espagne. Mais on a probablement raté le tournant de la mondialisation, de la réorganisation du capitalisme. Peut-être qu'on a laissé, et ça j'en suis aujourd'hui convaincu, les entreprises, les hyper-riches se moquer des États comme jamais. On a laissé prospérer une mondialisation déloyale. Eh bien, le chemin de la Renaissance, c'est celui qui reprend la main sur ça, pour avoir de la justice, de l'égalité et
de la puissance. Mais à qui parlez-vous aujourd'hui quand même, quand on est... Les socialistes, ils parlent à qui? Parce que là, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'à nouveau, vous reparlez aux ouvriers, aux employés auxquels vous parliez plus ces dernières années quand même.
En effet, on leur parle.
Mais vous leur parlez-vous tout seul quand même, parce que c'est pas non plus...
Mais c'est pas vrai, vous avez regardé les contre-budgets que nous avons faits?
Non mais...
Quelle en est l'essence?
En tout cas, ils ne se rendent pas compte que vous leur parlez manifestement.
Vous m'offrez l'occasion de le dire. On a déposé deux contre-budgets. Le dernier, nous l'avons déposé il y a quelques semaines, nous l'avons présenté. C'est un budget de responsabilité, de solidarité, qui place la lutte contre les inégalités, la prise en charge du grand âge et le financement de la transition écologique comme trois priorités majeures, avec des mesures concrètes qu'on peut détailler. Oui.
C'est-à-dire que vous êtes redevenu socialiste? Vous êtes toujours sociodémocrate? Vous êtes progressiste, on vous situe où en fait aujourd'hui?
Socialiste, voilà.
Tout simplement.
Et donc une définition.
Alors pour essayer de comprendre justement, oui, votre socialisme, que représente pour vous, en quelques mots, juste pour qu'on ait une idée claire justement de cette sensibilité que vous portez, que représente pour vous François Hollande?
Est-ce qu'il est socialiste?
Laissez répondre Boris Vallaud, en quelques mots.
Écoutez, il est socialiste, il n'a pas échappé sans doute à tout ce qui a, à un moment donné, saisi les socialistes européens. C'est cette prise en étau entre les libéraux d'un côté, les conservateurs de l'autre. Et moi, je regarde aussi les raisons de notre échec. Je sors du confessionnal du quinquennat et je regarde sur plus longue période ce qui s'est passé. Je regarde l'état de l'Europe, de la France, du monde, et je vois les injustices.
Mais qu'est-ce qu'il représente pour vous? On va en parler, mais qu'est-ce qu'il représente pour vous, François Hollande?
Autre question. Il a été le président de la République. Que voulez-vous que je vous...
Est-ce qu'il incarne encore ce parti, le Parti Socialiste? Parce qu'on a du mal
C'est une personnalité politique singulière. Il a été président de la République. Ça octroie un statut particulier, singulier. Il a dit lui-même, il n'est pas à la recherche d'un...
Il incarne un avenir?
Je ne crois pas que ce soit ni son aspiration. Et nous, on aurait tort de compter seulement sur le soutien aérien des grands anciens. Moi, vous savez, je dis modestement, je prends ma part.
Le soutien aérien des grands anciens.
Mais oui, je formule comme ça. Vous formulez comme.
Ouais,
comme
ça, c'est beau. Comme on a compris.
Ce que je veux dire, c'est que moi, je crois que on peut dire très bien. On compte sur les autres, on compte et on ne fait rien. Non, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parti socialiste, dans les territoires, dans les départements, on va expérimenter le revenu de base. On se bouge, on se mobilise et on se dit, comptons sur nos forces, sur notre engagement. Moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, que ce soit dans les Landes ou à l'Assemblée.
Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Écoutez, une tradition qui est celle d'une gauche contestatrice, radicale, qui parfois a la bonne idée de soutenir la gauche de gouvernement.
Benoît Hamon.
C'est la famille, la grande famille de la gauche de gouvernement. Vous savez, j'ai souvent été interrogé, j'anticipe, donc vous posez
la question.
Est-ce que vous croyez aux gauches irréconciliables? Moi, je vais vous dire, j'ai vu un paquet de gens irréconciliables. J'ai vu un paquet de gens qui se détestent.
Et pas des partis.
D'abord, parfois, ça ne même plus pourquoi ils se détestent. Je viens me demander s'ils ne se sont pas piqués leur copine ou leur copain à la maternelle.
C'est possible.
Mais à un moment donné, ce qui peut advenir est tellement plus grave que nos sorts individuels qu'il va falloir à un moment donné surmonter tout ça et construire.
Il faudrait, ça serait bien. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire? Et si vous faites quelque chose, avec qui? Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce qu'il y a des choses non pas irréconciliables, y compris dans son comportement et dans son vision du leadership qui fait que vous ne pourriez pas? De qui êtes-vous le plus proche?
Non, mais bien sûr. Mais enfin, on essaie d'être déjà proche de nous-mêmes. Vous voyez, on a un travail de reconstruction du Parti Socialiste, de
les
renaissance,
grands anciens,
avec des chantiers. Non, mais laissez-moi terminer. Essayez qu'on s'allie avec nous-mêmes. Et c'est ce que nous demandent aussi les militants. On dit il en reste peu, mais enfin, il en reste encore un grand nombre. Et autant essayer de les conserver, essayer d'en faire revenir
un certain nombre. Avec qui,
ça veut dire d'abord travailler avec nous, travailler avec la société civile. Travailler avec
les intellectuels, avec civils.
C'est tous ceux qui s'engagent. Avec beaucoup de chercheurs. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. J'ai travaillé beaucoup avec Gabriel Zucman tous ces derniers mois.
L'économiste.
Je travaille aussi avec des historiens, des sociologues, avec Christophe Prochasson. On organise un certain nombre
d'historiens.
De sujets pour interroger nos idées.
Donc les des intellectuels, des
une rupture entre
avec
PS.
Les syndicalistes aussi, qui eux-mêmes sont dans cette interrogation-là. Vous savez, je vois régulièrement, parce que ça fait partie de mes attributions, les syndicats de la fonction publique, qui sont en désaccord profond avec ce que fait le gouvernement, et qui sont quand même dans cette interrogation-là. Comment on s'oppose? Comment on propose? Comment on n'est pas renvoyé dans l'ancien monde? Toutes ces questions-là, on les partage. Nos désaccords.
Que représente pour vous Raphaël Glucksmann et le mouvement qu'il a lancé Place Publique?
Moi, je trouve que c'est une initiative heureuse. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent, la défaite de la pensée de gauche, elle est une responsabilité collective. La reconquête, elle peut être une responsabilité collective. Celle de, vous savez, c'était le terme consacré, on est le peuple de gauche dans sa diversité.
Alors, qu'il pourrait justement incarner l'espoir du peuple de gauche, Raphaël Glucksmann?
Raphaël Glucksmann fait partie de ceux, avec d'autres, qui se posent la question d'une renaissance, d'une offre politique de gauche, de gouvernement, responsable d'une force de transformation qui prend l'état de la société telle qu'elle est, et qui a deux comme je crois le Parti Socialiste, deux priorités, la lutte contre les inégalités et la lutte contre le...
Donc vous pourriez le rejoindre.
C'est pas une question de rejoindre, moi je suis au Parti Socialiste. Si Raphaël Glucksmann, dans l'initiative qu'il prend, peut être le catalyseur de réconciliation, d'un travail de fond, capable de surmonter les égos, tant mieux.
Oui, mais Raphaël Glucksmann, manifestement, avec Place Publique, son mouvement a manifestement compris ce que disait tout à l'heure Ali, c'est-à-dire qu'il y a un espace à gauche, il y a un peuple de gauche qui attend qu'on lui parle vraiment. Est-ce qu'à un moment donné, il pourrait finalement pas vous phagocyter le PS, finalement, qui n'arrive plus à parler, qui n'arrive pas à se reconstruire,
je ne le redoute pas. Je ne le crois pas. Je pense que aujourd'hui, la gauche, dans sa diversité, elle est extraordinairement divisée. Elle est prête à s'engager dans une course de nains.
Il n'est pas un danger.
Qu'elle paiera cher. Non, il n'est pas un danger. Il est peut-être une opportunité. Voilà pour nous tous. Vous savez, moi, je suis pas de ceux qui disqualifient les bonnes initiatives. Et quand il y a quelqu'un qui dit, je vais prendre ma part de responsabilité. Tant mieux.
Vous pourriez le rejoindre?
Tant mieux. Mais la question ne se pose pas en ces termes. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et si on peut faire des choses ensemble, tant mieux.
On peut imaginer, par exemple, que les socialistes présentent une liste commune avec Place Publique aux prochaines élections européennes.
Écoutez, je ne sais pas si les choses se posent en ces termes. En tout cas, la question qui est posée.
La question se pose en ces termes.
Je pose la question qui est... Oui, mais j'essaie de la reformuler.
Essayez surtout d'y répondre.
Sincèrement. Vous avez vos questions et comme on dit,
j'ai mes réponses.
Oui, essayez quand même de faire en sorte qu'elles soient claires et sincères.
Je vais essayer. Non, mais très sincèrement, est-ce que l'initiative que prend Raphaël Glucksmann est de nature à ce qu'on cesse d'être, pour reprendre la formule d'Olivier Faure, la gauche la plus bête du monde? Est-ce qu'on est capable de surmonter? Oui, malheureusement, vous avez raison, c'est une ancienne qui n'est pas neuve. Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de construire quelque chose en commun? J'en ai l'espérance.
Ségolène Royal, pour terminer cette liste de personnalités, qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Je me demandais combien il y en avait encore derrière.
Écoutez, Ségolène Royal, elle est dans le paysage et elle revient sur le devant de la scène avec
je connais pas ses intentions.
Vous ne vous parlez pas?
Moi non.
Vous souhaitez, par exemple, que en raison de sa notoriété, de son combat...
Moi, je ne souhaite rien. Je souhaite que nous continuions un travail de fond qui dise ce que nous sommes, avec quoi nous voulons rompre aussi, quel est notre projet. Et ensuite, la question d'incarnation, du rassemblement, puis on verra par quel vecteur. Mais moi, je ne spécule pas sur des spéculations.
Non, mais il y a peut-être besoin quand même d'avoir une véritable...
Je spécule pas
sur des spéculations. Il faut s'organiser, Boris Vallaud. C'est la politique, les élections approchent. Il faudra bien que quelqu'un conduise une liste socialiste.
Mais dites-moi lequel des grands partis, parce que je vois bien l'impatience que vous manifestez vis-à-vis du Parti socialiste. Mais quels sont les grands partis qui, aujourd'hui, ont des têtes de liste et même un projet?
Non, mais c'est pas une raison.
Excusez-moi. Tous les partis ne sont pas dans l'état du PS.
On a un projet. Nous travaillons, c'est la raison pour laquelle nous travaillons.
Le Parti socialiste avait dit qu'il publierait une liste pour les européennes mi-novembre. Bon, vous avez bougé la date à cause des gilets jaunes, c'était censé être le 17 novembre, mais vous avez dit que quoi qu'il en soit, vous publieriez cette liste et que vous verriez ensuite en janvier avec Ségolène Royal ce qu'il a donné. Donc, elle est pour quand, cette liste? C'est censé être imminent cette...
Eh bien c'est imminent, mais il y a effectivement un certain nombre d'initiatives, de discussions qui ont lieu, qui ont cours, et c'est au terme de celles-là que les listes seront publiées. Mais il y a eu une commission électorale qui... a recollé les candidatures, qui a reçu les candidats et qui continue de travailler.
Voilà. 12h30, le porte-parole du Parti socialiste et député des Landes, Boris Vallaud, est l'invité de Questions politiques.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Question de Nathalie Saint-Cric.
Juste, on ne va pas reparler de ça, mais est-ce qu'il y a un portrait robot? Alors vous allez me dire que les idées sont plus importantes et le projet que l'incarnation, c'est ce qu'on entend partout. Mais est-ce qu'il y a quand même un portrait robot de votre tête de liste idéale? Est-ce que ça doit être quelqu'un de pas connu ou parce que finalement, il faut renouveler les idées, que vous en avez marre des grands anciens, qu'on n'arrête pas de...
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on devait compter aussi sur nous-mêmes. Voilà, sur le travail que l'on fournit à l'Assemblée, qui est déterminé, qui est exigeant, mais qu'on fait sans s'économiser.
Voilà. Est-ce que ça peut être une prime, finalement, qu'il y ait des gens pas forcément connus, mais qui sont convaincus? Ou alors, est-ce que vous avez besoin d'avoir une petite étincelle à la tête?
Il y a plusieurs choses qui ont de la valeur. Le fait que ce soit un candidat qui croit dans le projet qui a été construit avec les militants du Parti socialiste. Un projet qui fait qui est euro-exigeant, je devais le qualifier. Une Europe utile à la vie quotidienne des gens, qui nécessite un certain nombre de ruptures dans les alliances qui ont pu être les nôtres, avec des modes de production qui sont destructeurs de l'environnement, un autre rapport à la mondialisation, au commerce mondial, des priorités qui sont celles de la transition écologique. Ça, c'est la première chose. On a besoin de gens qui soient des Européens... convaincus, mais pas des Européens béats, qui regardent l'Europe telle qu'elle va, avec toutes ses grandes conquêtes, toutes ses grandes réussites, et puis l'Europe telle qu'elle ne va pas aussi.
Vous trouvez qu'Emmanuel Macron est un Européen béat, ou vous trouvez que la façon dont il engage les choses sur l'Europe n'est pas la bonne?
Moi, je crois qu'il ne rend pas beaucoup service à l'Europe. Je vais vous dire, c'est enfermer le débat dans une alternative réductrice, binaire et finalement stérile entre d'un côté les progressistes et je suis intéressant, il disait les populistes.
Reconnaissez que c'est le seul à porter un discours positif sur l'Europe.
Ceci dit, il est sorti.
Tout le monde critique l'Europe aujourd'hui.
Mais lui-même critique l'Europe.
Il est sorti de ça.
J'ai vu qu'il avait déclaré
Pierre Moscovici a fait vexer.
J'ai vu qu'il avait déclaré qu'il était populiste devant les maires.
Non, mais il est surtout sorti de cette division-là en disant maintenant en fait c'est les gens pour l'Europe, les gens contre l'Europe. Il a organisé ce dîner la semaine dernière à l'Élysée auquel assistait Pierre Moscovici vexé. De ne pas être votre future tête de liste.
Mais chacun a la vexation qu'il
veut.
Non, mais
est-ce que cette espèce de
je vous le dis, quand le progressisme est le faux nez du libéralisme, d'accord, ça n'est pas l'antidote au nationalisme, et le nationalisme n'est pas l'antidote au libéralisme. Et contre l'un et l'autre, c'est le fameux espace dont vous parlez, et bien un espace pour une autre Europe, qui soit une Europe préoccupée, je le redis, de justice, de transition écologique, d'une Europe puissance qui défend ce qu'elle est dans un monde qui est devenu incertain, puisque c'est une Europe qui est contestée à la fois à l'extérieur de ses frontières et dans ses frontières. On est à ce moment-là, voilà, on est au seuil. Et quand on est un Européen avec les tripes, on est exigeant avec l'Europe. Voilà, une Europe pour les peuples, une Europe qui change leur vie, une Europe qui les protège, une Europe qui les défend, une Europe qui participe aux réécritures.
Donc tout ça, c'est des mots. Mais concrètement, les socialistes, ils proposent quoi, finalement, là?
Je vais vous donner quelques exemples concrets.
Allez-y, ouais.
Par exemple, sur la question environnementale. Il faut qu'il y ait une rupture avec l'économie décarbonée. Et on propose que le projet européen soit à l'unisson de ce que la France s'est fixé comme objectif. C'est la neutralité carbone à horizon de 2050. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on propose un grand plan d'investissement de 500 milliards d'euros dans la transition écologique pour les 5 prochaines années, qui devra servir à quoi?
Eh bien, 500 milliards d'euros.
500 milliards, c'est waouh.
Oui, sur 5 ans.
À l'échelle européenne.
Oui, mais c'est probablement, je vais vous dire, vous dites waouh.
Ah, vous savez, je n'ai pas dit waouh, c'est Karine qui a dit waouh.
Je suis en train de chercher le budget global annuel de l'Europe, de l'Union européenne.
Mais 500 milliards. 500 milliards. veux dire,
c'est une goutte d'ici à 2050.
Regardez ce qui, dans les 5 prochaines années, regardez ce qui nous menace. C'est absolument considérable. Le réchauffement climatique, il va ébranler tout. Nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de consommation, la façon dont on va habiter, dont on va se déplacer, on le voit bien là.
Oui, on essaie de dépenser l'argent qu'on a.
C'est une priorité. C'est une priorité. Mais attendez, vous croyez qu'on manque d'argent ? Moi, je vous donne juste un exemple, pardonnez-moi, mais j'y tiens. Il y a 40% de la base fiscale des multinationales qui est délocalisée dans des paradis fiscaux. L'Union européenne perd chaque année 20% du produit de l'impôt sur les sociétés.
Donc, faut aller les
chercher. Pour la France, c'est à peu près 5 milliards.
Mais tout le monde est d'accord pour lutter contre ça, y compris Emmanuel Macron.
Oui, sauf que moi j'ai proposé un amendement qui a été balayé en 5 minutes par le gouvernement.
Juste parce qu'on n'a pas demandé tout à l'heure, une petite incise. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron doit stopper ou doit repousser la taxe carbone ? Puisque vous nous dites en permanence que votre programme a deux volets, c'est-à-dire la transition énergétique et la progression sociale. Nous avons demandé très clairement
que les augmentations prévues au 1er janvier fassent l'objet d'un moratoire parce que c'est de l'argent qui ne va pas à la transition écologique.
D'accord. Moratoire jusqu'à
Nous avons demandé par ailleurs, j'étais heureux de voir Laurent Berger et beaucoup d'autres reprendre cette idée-là, mais nous demandons des états généraux du pouvoir d'achat et du financement de la transition écologique.
Et vous mettez
précisément parce qu'aujourd'hui, dans les propositions du gouvernement, il y a deux victimes. Il y a le pouvoir d'achat des Français. Et là, il y a la transition écologique. Et je remarque que ce n'est pas une chose assez tout à fait différente qu'a dit Nicolas Hulot jeudi soir. Voilà. Et donc, si on veut être sérieux dans la question de la transition écologique, c'est-à-dire ne pas abandonner les plus pauvres.
Jeudi soir, et ça ne vous a pas échappé, Nicolas Hulot parlait de nécessaire accompagnement social de la transition écologique.
Mais il n'est plus ministre.
Et la difficulté, c'est de savoir comment on finance cet accompagnement social. En l'occurrence, vous avez été dans une majorité qui était au pouvoir il n'y a pas si longtemps, où il y avait déjà un ras-le-bol fiscal, où il y a eu déjà un recul du gouvernement qui voulait la transition écologique face au mouvement des bonnets rouges. C'était avant les gilets jaunes. Compliqué quand même.
Mais c'est d'autant plus compliqué qu'ils savent très bien que la taxe sur les carburants, elle va financer la suppression de l'ISF. Je veux dire, c'est quand même ça le sujet. C'est l'injustice fiscale. Je donne juste pour vous donner...
La taxe carburant qui finance la suppression de l'ISF.
On cherche de l'argent.
Je ne suis pas contre le
prix du carbone. J'y suis même favorable. Je dis juste que l'argent qui va qui est prélevé pour l'écologie doit aller à l'écologie. Il doit aller à l'accompagnement social. Parce que, je vous donne juste un petit exemple. Les 10% de Français les plus riches ont une empreinte carbone 20 fois supérieure à celle des 10% de Français les plus pauvres. Où est-ce qu'il faut taxer le carbone
et, donc vous proposez de nouvelles taxes.
Moi, ce que je dis, c'est que la politique environnementale doit être une politique sociale. Elle doit s'occuper, par exemple, du kérosène. Elle doit s'occuper du fuel des navires. Elle doit s'occuper de l'accompagnement social.
C'est ce que aujourd'hui, ce que vous proposez,
je vous donne un exemple.
C'est de nouvelles taxes.
Je ne vais pas proposer de nouvelles taxes.
C'est ce que vous voulez dire sur le kérosène qui n'est pas taxé ou en tout cas l'essence.
Oui, bien sûr. Vous avez raison de
le
dire.
Le carburant des
bateaux. Je veux de la justice fiscale. Je veux de l'efficacité environnementale dans la fiscalité. Je ne veux pas de la fiscalité et de l'écologie punitive. Et c'est ce à quoi se livre aujourd'hui le gouvernement. Alors, on a fait une proposition qui est une proposition raisonnable, qui est une proposition partagée de ces états généraux. Parce que, vous savez. Je ne crois pas que les gens qui manifestaient soient indifférents à la question environnementale.
Vous parlez des gilets jaunes ?
Oui, et puis y compris de ceux que j'ai croisés, qui me disent « mais nous, on aimerait bien ne pas habiter dans une passoire énergétique. On aimerait bien ne pas être contraint de prendre un véhicule qui consomme et qui pollue. Mais qu'est-ce qu'on nous propose ? On n'arrive pas à faire notre carburant et on nous propose un chèque pour racheter un nouveau véhicule ?
Et si Emmanuel Macron avance mardi, comme on nous le dit, un certain nombre de propositions de manière à ce que l'accompagnement social soit fait, vous pouvez examiner ça éventuellement. Alors vous considérez de toute façon que la taxe carbone, il faut repousser pendant longtemps.
Boris Vallaud.
Je vous ai dit, la question du prix du carbone et la transition écologique, le fait d'aller résolument vers une économie décarbonée, c'est un horizon auquel personne n'échappe.
Donc
personne n'échappe. Ensuite, vous me demandez Non, parce que l'augmentation de la taxe, elle est sans commune mesure avec l'argent qui va être utilisé pour la transition écologique. Regardez, sur ces augmentations de carburant, il y a la TVA. La TVA, elle ne va pas à la transition écologique. Là, vous me demandez, est-ce que je soutiendrai mardi les annonces du président de la République ? J'en sais rien, on verra. Si elles sont bonnes,
le principe de cette taxe carbone, est-ce que vous trouvez que ça n'est pas un principe puisqu'on peut le suspendre si ça ne convient pas?
Boris Vallaud.
C'est pas question de suspendre. C'est question d'abord d'avoir de la progressivité dans l'impôt, dans l'augmentation de cette taxe. Pour un couple avec deux enfants, une voiture au diesel et qui se chauffe au fioul. D'accord? L'augmentation, par le seul fait de la taxe,
C'est pas progressif, ça c'est
sûr. Ce sera 576 € entre 2017 et 2022. Mm-hmm. Ça n'est pas soutenable. Pour des gens qui n'ont pas le choix. La bonne fiscalité.
Il faut moduler le prix de l'essence en fonction des revenus.
La bonne fiscalité écologique, c'est celle qui, en réalité, finit par ne plus rien rapporter parce qu'elle a induit des changements.
Ça a toujours été le cas sur cette taxe carbone. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, là. Donc,
dès 2009, Michel Rocard s'était vu commander par Nicolas Sarkozy un rapport sur la mise en place de la contribution climat énergie. Et dès ce moment-là, il avait posé la question de l'acceptabilité, de la compréhension, et donc de la justice. Et il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'efficacité politique, pas d'efficacité environnementale, sans justice sociale. Alors si tout le monde s'entend pour dire ça aujourd'hui, et le président de la République, mieux vaut tard que jamais, eh bien tant mieux, mais je dis on verra mardi ce qu'il annonce.
Alors, voilà. Question de Karine Becker.
Mardi, éventuellement, d'après ce qu'on lit en tout cas dans le JDD, il pourra annoncer un haut conseil pour le climat. Vous parlez d'états généraux pour le pouvoir d'achat, c'est très bien, mais on met qui autour de la table? Parce que ces gilets jaunes, on fait comment pour... qu'ils aient des représentants et qu'ils viennent discuter avec vous, parce que c'est eux qu'on a envie d'entendre là.
Boris Vallaud.
Bien sûr, c'est le principe, vous savez, des conférences de consensus.
Et donc on fait comment?
Dans les conférences de consensus, on choisit des citoyens qui par ailleurs sont formés pour pouvoir participer efficacement à les discussions. Donc il doit y avoir d'ailleurs des citoyens, parce que moi je crains pas la démocratie directe. Je pense qu'elle est un complément, qu'elle doit être organisée. Il faut qu'il y ait les partenaires sociaux.
Mais on parle avec qui?
Mais vous savez, je vous donne juste un exemple parce que cette question-là, j'y ai été confronté très concrètement. En Saône-et-Loire, nous avions augmenté, augmenté les impôts. Il avait augmenté les impôts en disant je veux que le produit de cette augmentation d'impôts aille au financement de la dépendance parce que nous étions garrottés par l'État. Eh bien, nous avons tiré au sort sur les listes électorales un jury citoyen. Eh bien, ce jury citoyen, il était composé de simples citoyens qui n'avaient pas de mandat ni syndicaux ni électoraux.
Qui ont été prêts à discuter avec vous.
Qui ont été formés, qui ont contrôlé le bon usage de ces deniers publics, qui ont rendu un rapport sur l'utilisation. Eh bien, on est capable de faire ça aujourd'hui. Vous savez, il y a eu des conférences de consensus sous le précédent quinquennat sur les questions environnementales, sur les questions éducatives, sur les questions de la justice.
On peut
le
faire.
Et puis, il en est resté beaucoup. Il en est resté beaucoup. Et il faut, pardonnez-moi, aussi, je crois que c'est le sens de ce que propose notamment la CFDT, c'est que le gouvernement se redonne des interlocuteurs. Il ne peut pas considérer qu'à chaque fois qu'on est en désaccord avec lui, on est un conservateur ou qu'on est rétif au changement.
Mais est-ce que les Français ont envie d'être représentés par les syndicats, en fait? La question se pose aussi, et par des partis politiques. Donc qui on met autour de la table, la question?
Moi, je vais vous dire, je crois que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle, en effet, du renouvellement de notre démocratie. Le constat que je fais, moi, depuis plusieurs mois comme parlementaire, vous avez eu raison de dire, c'est la première fois que je suis élu, donc ma connaissance était livresque, c'est que nous sommes un petit parlement dans une grande démocratie. Et que là, les Français le savent, ils nous disent, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, dans les réformes institutionnelles à venir, il faut que nous nous posions la question, savoir ce qu'est un parlement qui est de l'initiative, quelle place est laissée aux oppositions. On doit se poser la question de savoir comment, là, on multiplie les représentations du peuple. On a besoin d'une démocratie sophistiquée et pas... d'une simplification politique, sociologique, qui fait qu'en réalité, on est dans une impasse.
Vous pensez que ça doit être des initiatives décentralisées? Parce que quand Laurent Berger a proposé de faire une gigantesque sorte d'état généraux, Édouard Philippe a repoussé dimanche sur France 2 en disant on va pas faire une espèce de grand truc, de grand bastringue. Est-ce que vous pensez que les propositions qui doivent être à partir de mardi pour essayer de calmer la colère, ce doit être des choses dans le cadre des départements extrêmement décentralisés, avec des associations de consommateurs, avec des représentants de l'administration, avec tout ça, de manière à ce qu'on puisse comprendre la colère profonde?
Mais on a toujours intérêt à aller au plus près des réalités locales. Je regardais il y a quelques jours la cartographie faite par Hervé Lebras, le démographe, de la manifestation des Gilets jaunes du 7. Et il constatait que, rapporté à la population, la mobilisation avait été particulièrement forte dans ce qu'il appelle le couloir du vide entre les Ardennes.
La diagonale
du vide, je cherchais le terme consacré. Diagonale du vide entre les Ardennes et les Pyrénées-Atlantiques. Parce que les réalités vécues par les ruraux n'est pas les mêmes que celles vécues par les périurbains ou par les urbains, a fortiori. Donc oui, on a raison d'aller au plus près de la réalité des territoires, de ce que vivent les gens, qu'ils puissent le dire, l'exprimer. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui payent pour aller travailler, alors qu'ils voudraient que le travail paye. Voilà la réalité. Il y a des gens qui n'arrivent plus à terminer leur fin de mois, pour qui la fin du mois, c'est le 20.
Voilà. Donc, c'est d'accord. Et alors, mais la baisse des cotisations salariales, ça fait un peu plus payer le travail.
Ben, vous savez, alors ça, c'est alors, très, c'est très intéressant. Non, vous avez tort. Le basculement des charges sur la CSG, ce n'est pas le travail qui paye, c'est les grands-parents qui payent. Ce n'est pas une augmentation des salaires. Et d'ailleurs, quand vous lisez les annexes, il faut toujours lire les annexes, c'est comme les polices d'assurance, il vaut mieux lire les annexes du PLFSS. Ouais. Vous lisez que le
projet de loi de financement de la sécurité sociale...
Pardonnez-moi, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un passage sur, dans l'étude d'impact, je crois, sur ce que va produire le basculement des charges sur la CSG. J'ai dit que ça va aboutir à une convergence à la baisse du salaire brut et donc à une baisse du coût du travail. Parce que la réalité, c'est que le gouvernement sait que cette augmentation de pouvoir d'achat n'est pas durable et que dans les négociations salariales annuelles, beaucoup d'employeurs diront « mais votre augmentation, vous l'avez eue ». Sauf que la réalité, c'est que vous n'allez pas... C'est comme si là, vous alliez voir votre employeur, vous dites « je voudrais une augmentation », il vous dit non et vous allez le chercher dans la poste de votre grand-mère. Parce qu'en réalité, ces augmentations de pouvoir d'achat, c'est les 8 millions de retraités qui la payent. Voilà la réalité.
Le porte-parole du Parti Socialiste et député des Landes, Boris Vallaud, est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info ce dimanche.
Question politique sur France Inter.
L'évasion fiscale, c'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup au Parlement, Boris Vallaud, avec l'idée de créer un nouvel impôt fondé sur l'activité réelle des multinationales. Et on sait la difficulté en Europe et ailleurs dans le monde de taxer ce qu'on appelle les GAFA. Mais le problème est beaucoup plus général que les seules grandes entreprises de l'Internet. Vous avez travaillé sur l'évasion fiscale et c'est un sujet sur lequel avaient travaillé certains de vos aînés. Si on pense à Vincent Payon, si on pense à Arnaud Montebourg, eux aussi jeunes députés qui s'étaient emparés de la question. J'ai envie de vous dire, et pour quel résultat, si vous songez aux mois, aux années qu'ils ont passé à travailler sur ces questions, et même pour quel résultat politique les concernant ?
Ben, vous avez raison de dire, pour des résultats qui sont insatisfaisants. Je voudrais juste vous dire ma conviction et qui résume peut-être la motivation qui est la mienne. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que le néolibéralisme, dans ce qu'il a de brutal, dans ce qu'il produit d'inégalité, d'injustice, je l'ai dit tout à l'heure, de mondialisation déloyale, de concurrence fiscale, sociale, ce libéralisme économique, eh ben, il finit par emporter avec lui le libéralisme politique. Parce qu'il y a un certain nombre de gens pour dire « mais la démocratie libérale, elle s'est rendue complice de ça, et donc il faut changer ». Et donc si ce n'est pas justement des partis de gouvernement, des démocraties, qui reprennent la main, qui disent « on ne peut plus se laisser faire de la manière dont ça se passe depuis des années », Eh bien, on se fragilise. Voilà pourquoi il faut investir, et je crois que le sujet est de plus en plus partagé. Il faut investir cette question de la lutte contre l'optimisation fiscale. Je veux dire, il y a de l'argent qui manque à nos services publics. Il y a de l'argent qui manque au pouvoir d'achat des Français, parce que
Finalement, vous finissez l'émission, vous ne faites que proposer de nouvelles taxes.
Non, c'est pas une nouvelle taxe. Je propose juste que ceux qui doivent payer leurs impôts les payent. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je vous donne l'exemple américain. Oui, je n'ai pas l'ambition de créer de nouvelles taxes aux États-Unis, mais les entreprises américaines ont fait plus de bénéfices en Irlande qu'aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, réunis. Vous trouvez ça normal ?
Mais nos personnes trouvent ça.
Ça veut dire que moi, j'en ai ras-le-bol.
Le gouvernement en a ras-le-bol. Oui. Mélenchon en a ras-le-bol.
Je pense qu'on peut agir. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai proposé au vote.
Qu'est-ce qui fait ? Il y a un manque d'énergie, il y a un manque de compétences, il y a un manque de volonté. Vous avez bien compris que toute la France et tous les Français veulent la même chose que vous.
On est dans un monde, on est dans une urgence. Vous savez, la politique, elle s'est rendue sans doute à bien des égards.
Mais il y a d'autres gens dans l'Europe avec nous.
Oui. Précisément, je veux dire d'abord, si ça pouvait être au plan européen, ce serait une bonne nouvelle. Vous savez que c'est un projet qui est en cours depuis bien longtemps, qui est bloqué au Conseil européen depuis 2011.
Mmh. Voilà. Bah oui, c'est pour
et
ça
là, la proposition que je faisais.
Parce qu'il faut l'unanimité.
Construite avec un certain nombre de spécialistes de ce sujet-là, autorise un seul pays à modifier la base fiscale. Est-ce que vous trouvez normal qu'Apple consolide 40 milliards aux Bermudes ?
Mais on ne trouve pas ça
normal.
Vous
avez l'impression ? Eh ben non,
Nathalie a tout dit.
Sauf que ça veut dire que c'est fini.
On est tous d'accord.
Ça veut dire que c'est fini. Voilà. À un moment donné, il faut qu'il y ait une majorité de gens. Très concrètement, j'ai formulé des propositions. On taxe là où le chiffre d'affaires est effectivement fait.
Et comment on réussit à obtenir ce résultat ?
C'est l'Europe qui décide de ça.
Non, ce n'est pas l'Europe.
Vous considérez ça. Et par ailleurs, l'Europe, Margaret Vestager, elle a fait finalement les seules choses concrètes qui ont été faites. Ces dernières années, c'est grâce à cette femme.
Absolument. Cette commissaire. Et vous avez raison que les amendes qu'elle a infligées aux GAFA sont bienvenues. Et il faut aller au-delà. Et la proposition que je fais était assez simple. C'est de considérer le chiffre d'affaires mondial consolidé des multinationales, de regarder quelle est la part des ventes faites en France et donc de taxer la part de ces ventes dans le chiffre d'affaires mondial en France. Au taux en français, on n'augmente pas les taux, on ne crée pas de nouvelles taxes. On dit juste que eh ben, cet argent, ça manque aux États, que ça affaiblit tout, que ça emporte tout et que ça sape même le fondement de la démocratie libérale qui est le consentement à l'impôt.
Mais c'est un peu ce que disait François Hollande Karine dans sa campagne qui nous paraît déjà très loin maintenant. En 2012, il était très vaillant contre cette finance qui était son ennemi. Il a fait quoi finalement pendant 5 ans? Et vous étiez à ses côtés, vous étiez à l'Élysée, vous étiez le secrétaire général adjoint.
Il y a eu, vous savez, la taxation sur les transactions financières. En France, c'était supprimé par Emmanuel Macron. En Europe, avec des difficultés, en effet, à dialoguer avec un certain nombre de partenaires. On l'a fait. La séparation des activités bancaires, on l'a fait. Est-ce qu'il fallait aller plus loin? Est-ce qu'il faut maintenant aller plus loin? Oui, c'est ma conviction. Vous savez, moi, je ne regarde pas. Quand on me dit, mais vous auriez dû le faire, je me dis, ouais, peut-être qu'on aurait dû le faire.
On a le sentiment que c'est des bons propos quand on est dans l'opposition. Mais finalement, quand on arrive au gouvernement, c'est compliqué.
C'est la première fois que je suis député. Je suis comptable de ce que je fais comme député. Je répondrai devant les électeurs de ce que j'ai fait. Avec la part de responsabilité qui est la mienne, ce que je n'avais pas saisi à un certain moment. J'avais pas, par exemple, sur des choses très concrètes, on a parlé tout à l'heure des corps intermédiaires. Moi, j'avais pas perçu toutes ces dernières années, mais depuis longtemps, même étudiant, à quel point le changement de financement de la sécurité sociale, ça avait des conséquences sur la question du paritarisme et sur, au fond, la solidité d'un certain nombre de syndicats. Quand on repense notre modèle politique, notre modèle social, c'est des choses auxquelles il faut penser. On a besoin de recrédibiliser la politique en montrant qu'elle a prise sur les choses. Voilà.
Alors, il reste quelques minutes, justement, questions d'actualité pour voir ce qu'on peut faire en politique sur des questions très concrètes.
Sur la PMA, vous trouvez que le gouvernement traîne les pieds, que le fait de repousser sans cesse, c'est une façon de ne pas vouloir vraiment le faire?
Je vais vous dire, là, je serais bien en peine de formuler une critique. On ne l'a pas fait.
Vous auriez dû?
Oui, on aurait dû le faire. Et moi, j'y suis très favorable.
Vous êtes favorable à la GPA également?
Je pense, moi, à titre personnel, je pense qu'il n'y a pas de majorité de gens qui sont pour. C'est une GPA, sans marchandisation, précisément pour la prévenir.
Oui, mais ça, vous y croyez vraiment, une GPA sans marchandisation?
En tout cas, je sais qu'il y a de la GPA qui est marchandisée aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est quand même un problème. En tout cas, pour ce qui est de la PMA, je pense que maintenant, c'est une promesse qui est au fond celle de la société française. Et donc, il faut y aller. Et le plus vite sera.
Il y a des débats au PS, chez les socialistes, sur l'histoire de la GPA. Non,
je parle parce que vous allez plus loin. Moi, je parle de la PMA.
Mais pourquoi vous voulez?
Mais moi, je parle juste de la PMA.
Vous à la tête d'eux, ça serait favorable à la GPA.
Vous savez, il y a des opinions personnelles qui ne sont pas des opinions majoritaires. Il y a un phénomène majoritaire. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, il est pour la PMA, il n'est pas pour la GPA.
Toute autre question d'actualité. Les dirigeants européens, ce matin, ont approuvé le traité de retrait du Royaume-Uni. Ce retrait est une tragédie, a dit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. C'est votre avis aussi? C'est une tragédie?
Boris Vallaud.
En tout cas, c'est un échec à convaincre les Britanniques qu'on peut avoir un destin partagé. Qu'on est plus fort ensemble, que chacun de son côté. De ce point de vue-là, oui, il y a quelque chose de triste et de tragique. Vous savez, moi, le projet européen, ça correspond aussi à l'idée que je me fais de l'amitié entre les peuples. Peut-être parce que il reste un peu d'internationalisme.
Vous ne vous dites pas bon débarras, comme avait pu le dire Michel Rocard, qui lui souhaitait le départ du Royaume-Uni parce qu'il imposait une vision trop libérale de l'Union européenne.
Alors, si vous, la question est... Est-ce que je dis bon débarras au libéralisme? Je dis bon débarras au libéralisme, mais là, je veux dire, il y a quand même, mais peut-être que sont-ils partis aussi parce que cette Europe n'était pas une communauté de destin dans laquelle ils se retrouvaient. Moi, je m'en désole.
En même temps, ils vont rester très proches, après ce qu'on comprend, pour des questions logistiques, pour des questions commerciales, très proches de l'Union européenne. Est-ce que finalement, là, on n'est pas en train d'exacerber cette pente populiste? Ça ne va pas plaire aux Brexiteurs, aux pro-Brexiteurs. Ils étaient quand même majoritaires.
Écoutez, ce sera aux Britanniques aussi de se prononcer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Europe, ça ne peut pas être juste un grand marché. Et ça ne peut pas être un grand marché libéral et sans règles. Il faut qu'il y ait une aspiration avec de l'humanisme, avec de la solidarité, avec la défense d'un modèle, d'une Europe-providence. Voilà.
Le fait qu'on ne coupe pas complètement le bras, qu'il reste un peu encore avec nous pour des questions, je vous dis, logistiques et commerciales. Est-ce que c'est un problème politiquement ou pas?
À quel point de vue?
Le fait qu'il y a des pro-Brexiteurs qui étaient majoritaires et qui vont écoutez, être moi, je suis totalement pas, insatisfaits.
Je ne suis pas négociateur pour le compte des Britanniques qui ont voté le Brexit. À eux de dire si ça leur convient ou si ça leur convient pas. Est-ce qu'ils veulent une rupture plus franche ou pas? J'ai compris que les négociations étaient arrivées à cela. Moi, je ne suis pas le peuple britannique qui a voté. S'il considère que ça ne va pas, j'imagine qu'il le dira.
Virginie Malingre.
Je voulais juste savoir, puisque vous parlez d'avancée, de reconstruction du PS, etc. On attend toujours l'inventaire du quinquennat Hollande. C'est pour quand?
Eh bien, ça va arriver avant la fin de l'année. Il y a un travail très important qui a été fait au sein de la direction du Parti Socialiste par les secrétaires nationaux, qui sont chacun en charge d'un secteur, par Isabelle Thys-Saint-Jean, qui est à la charge de cela, qui a procédé à plusieurs dizaines d'auditions, y compris d'anciens membres du gouvernement, d'anciens premiers ministres, qui est allé aussi à la rencontre des organisations syndicales, un certain nombre de chercheurs, et qui est en train de compiler tout ça pour que le premier secrétaire ait matière à un discours, qui soit un discours de restitution de ce travail-là. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture entre le PS et les intellectuels? Vous en voyez beaucoup, vous l'avez dit vous-même, vous, à titre personnel, vous les rencontrez très souvent. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du parti, c'est un sujet aujourd'hui de reconstruire, retisser un lien avec des intellectuels?
Bien sûr que quand on dit vous avez perdu le contact avec les classes populaires, avec les intellectuels, enfin à 6%, on a perdu le contact avec pas mal de monde. Hein. Donc on a renoué avec beaucoup de monde.
Je
ne le cache pas. Vous savez, je fait longtemps que je rencontre des intellectuels et à qui je termine parfois la discussion en leur disant mais il paraît que la gauche a déçu les intellectuels. Alors ils me disent ah oui c'est vrai. J'en dis mais parfois les intellectuels ont déçu la gauche. Et c'est ce que je disais, y compris à travers l'initiative de Raphaël Glucksmann. C'est la reconquête, elle est un effort collectif. Vous savez, j'ai vu parfois, et c'est des leçons que l'on tire de l'expérience. On allait voir des chercheurs en disant, voilà, vous travaillez depuis 20 ans sur ce sujet-là, aidez-nous. Et puis, on sentait qu'on avait du mal à travailler ensemble parce qu'on n'avait pas de langue commune. Et puis parfois, c'était l'inverse. On avait fait un projet, non, et puis on n'était pas allé voir le spécialiste du sujet, qui dit, mais quand même, vous êtes des imbéciles, là, vous auriez pu venir me voir. Eh bien, on a ça à reconstruire, ce dialogue. Mais la reconquête, elle est collective, et je sens confusément, dans le pays, peut-être aussi en dehors des structures partisanes, cette envie de sortir de cette alternative mortifère entre le moins macronien ou le chaos.
Juste d'actualité,
Nathalie.
Dès le mois de juin, Gabriel Attal, le nouveau secrétaire d'État, décide de faire venir des jeunes gens pour ce fameux service national universel. C'est une bonne idée, ça?
Boris Vallot.
Pas de le faire dès juin, mais de demander aux jeunes de s'engager.
Moi, je suis très favorable à l'engagement. Très favorable à l'engagement et je m'efforce dans les Landes de trouver des jeunes qui n'ont pas envie forcément d'un engagement politique, mais en leur disant il y a bien des manières de changer la
Donc
vie.
Ça,
l'engagement,
c'est une bonne initiative,
on est un. Attendez, je suis pour l'engagement.
Je pense qu'il y a un deuxième temps, mais...
Voilà.
Mais...
Thèse, antithèse... Bon.
Vite peut-être. Voilà.
Ensuite, je m'interroge sur le caractère obligatoire. J'ai bien vu quand est-ce qu'avait réémergé cette question d'un service obligatoire. C'est au moment des attentats.
Ouais. Ségolène Royal avait déjà parlé de certains.
Oui, mais c'est arrivé avec beaucoup de force juste après les attentats. Finalement, la réponse, c'était il fallait mettre les jeunes sous les drapeaux. Ouais. Moi, je m'interroge parce que le débat sur le service civique doit-il être obligatoire est un vieux débat. Et la réponse qui finalement est la mienne aujourd'hui, je suis prêt à tous les débats contradictoires, c'est qui doit le plus à sa jeunesse? La nation à sa jeunesse ou la jeunesse à sa nation? Elle est à 25% de chômage, il y a le réchauffement climatique, il y a une dette considérable.
L'émission se termine.
Voilà.
Donc il ne faut pas que ce soit obligatoire.
Je crois qu'il faut promouvoir l'engagement, mais que ce soit un acte authentiquement citoyen.
Est-ce que la chasse à l'ortolan doit rester interdite?
Elle est interdite et il faut que la loi soit respectée.
Bravo, bonne réponse. L'émission se termine. Radio France fête le livre ce week-end. Le livre est à l'honneur. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Boris Vallot?
Et en ce moment, je lis Roberto Saviano.
Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Écoutez, vous reviendrez
bon appétit,
nous le dire. Bon appétit, voilà. Exactement. C'est une très, très bonne idée. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. À la semaine prochaine.